La traversée de Lucien Bertolinat et Gilbert Racina, une émission sur les relations entre la France et l'Algérie depuis 1954. Avec aujourd'hui Anissa. Anissa, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous remercie d'être venue au micro de Radio Grenouille. C'est la première d'une série d'émissions sur la mémoire des relations entre la France et l'Algérie, où vous êtes née d'ailleurs. Donc, je voudrais un peu que vous me parliez de votre naissance, puisque vous êtes d'origine, comme on dit, franco-algérienne.
Donc, bonjour, je m'appelle Anissa, je suis née en 1969 à Oran, d'un père algérien et d'une mère, qu'on pourrait dire, pied noir, hein, puisque le temps a fait que ma mère n'a jamais opté pour la nationalité algérienne. Elle est devenue française, pas par choix, mais parce que c'était comme ça à l'époque. Quand on était en Algérie, on était français. Donc après 62, après donc l'indépendance de l'Algérie, ma mère est restée française, mais jamais a été algérienne. Donc je suis née de père algérien et de mère française d'identité et non de culture. Ma mère était donc moitié espagnole, moitié italienne. Donc être franco-algérienne, franco peut-être par nationalité, mais culture plutôt méditerranéenne.
Oui, ça va être un peu le thème de l'émission en fait. Hein. On va un petit peu discuter de ça. Et une remarque, ça sera à titre indicatif. Vous dites Anissa et pas votre nom de famille. Je vous avais demandé si je pouvais décliner votre nom de famille et vous m'avez dit non, je m'appelle Anissa. Anissa, ça suffit, pas besoin de parler de ma famille. Pourriez-vous expliquer un petit peu tout ça?
Ça, c'est personnel, car je trouve que quand on a une identité, d'abord, on a un prénom. Après, on a un nom de famille. Un nom de famille, ça regroupe plusieurs personnes, ça regroupe une famille. Donc, quand on vient parler, n'importe où on est, quand on parle, c'est soit qu'on parle ou on parle au nom d'un groupe. Là, aujourd'hui, ben, c'est Anissa qui va parler. C'est pas ni la fille de tel ou ni la fille d'un pays ou d'une culture. C'est Anissa, tout simplement, qui va finalement... Parler de mon histoire, de ma vie et de mon expérience. Donc c'est pour ça que je ne viens pas au nom de mademoiselle telle, c'est tout simplement Anissa.
Mais en même temps, vous avez plongé, vous avez un pied dans chaque culture.
Oui, c'est ce qui fait cette richesse.
Hein. À quel âge êtes-vous venue en France?
La première fois, j'avais 10 ans.
Et vous y êtes retournée ensuite?
Oui, je suis retournée parce qu'en fait, je suis arrivée en France à 10 ans malgré moi. Je ne savais pas qu'on allait venir s'installer en France. Mon père y était déjà depuis quelques années. Il a quitté l'Algérie, j'avais 6 ans ou 7 ans, si ma mémoire... il est venu s'installer en France et nous, on est restés là-bas avec mes frères et ma mère. Et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 10 ans dans un univers... Je dirais paradisiaque, très enfant roi, où les enfants ont le droit à tout, où ils sont toujours aimés, dorlotés. Et donc je suis arrivée à l'âge de 10 ans en France en pensant que je venais en vacances voir mon père. Et je me suis rendu compte qu'on allait rester ici parce qu'un jour, ça faisait déjà un petit moment qu'on était là, c'était l'été, je pensais que c'était pour les vacances. Et je voyais que le temps passait, qu'on était toujours là. Et puis un jour, on revenait d'une course avec mes parents. Et mes parents s'arrêtent devant un immeuble. Ma mère monte avec moi dans cet immeuble où il y avait une personne dans un bureau. Je vous décris tel que c'était à l'époque. Maintenant, je sais ce que c'est. Donc, j'entends ma mère parler avec cette personne parce qu'à l'âge de 10 ans, je ne parlais pas français. Je comprenais par contre. Je comprenais plus ou moins la langue française. Parce qu'il faut dire une chose, en Algérie, j'étais arabisée.
D'accord.
Mes parents parlent espagnol. Mon père et ma mère, entre eux, parlent espagnol. Donc, les deux langues que j'ai connues dans mon enfance de 0 à 10 ans, c'était l'espagnol et l'arabe. Mais par contre, le français, je n'en avais que quelques mots. Donc, j'avais quand même compris de quoi il s'agissait quand ma mère allait voir cette personne qui était une dame qui, par la suite, j'ai su que c'était la directrice de l'école où ma mère était en train de m'inscrire. Donc, quand j'ai compris... À ce moment-là, qu'on m'inscrivait dans une école, ça voulait dire que je ne retournerais pas en Algérie.
Et ça s'est passé comment pour vous ?
Très difficilement. Parce que moi, en Algérie, j'étais bien. J'étais heureuse. Je grandissais dans un univers où vraiment, j'étais libre. Les enfants jouaient dehors. En France, j'ai connu où on ne sort pas, où les enfants restent dans les maisons. On est enfermés. Et en même temps, ça s'est passé d'une manière très difficile, parce qu'en même temps que j'arrive en France, je m'installe en France, je deviens une adolescente. En devenant une adolescente, je devenais, pour mes parents, je devenais une, si vous voulez, une gêne. Parce que
c'est important. C'est-à-dire qu'il y a une période, c'est l'enfance, c'est un peu le paradis.
Oui.
Et puis il y a une coupure avec l'adolescence.
Voilà.
Et cette enfance se passe en Algérie.
Elle se passe en Algérie avec mes frères et sœurs, avec une famille, avec la famille de mon père, qui était ma famille, où tous les vendredis, on se retrouvait au bord de la mer, où chacun ramenait ses plats, où je jouais avec mes cousins, mes cousines. C'est ce qu'on peut appeler une enfance dorée.
Les relations entre votre père et votre mère, les différences de culture, entre
aucune,
guillemets.
Aucune différence. Mon père et ma mère se sentent aimés, c'était une histoire d'amour. Donc dès le départ, il y a eu un respect mutuel.
Donc c'est un commun accord que vous venez à l'école en France, en fin de compte.
En fait, c'était un arrangement qu'avaient eu mon père et ma mère. Que ma mère devait à un moment donné rejoindre mon père. Et donc, ils ne nous ont pas demandé notre avis. Voilà, ils ne nous ont pas demandé notre avis. Et c'est vrai que quand on est enfant, on ne vous demande pas votre avis. On vous fait découvrir les choses comme ça d'un coup. Sans poser la question, aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui en France ou dans les pays européens, on se pose beaucoup des questions sur le psychique des enfants et tout, mais je pense qu'à l'époque, les parents ne se posaient pas trop cette question, qu'on ne me disant pas.
Et cette adolescence va être vécue en France avec un problème différent de ce qu'elle aurait dû être en Algérie, puisque vous êtes en France à ce moment-là, donc vous vivez deux choses en même temps.
Alors, il faut comprendre une chose, je grandis en Algérie, donc dans une enfance plus ou moins dorée, avec aussi le fait, à l'extérieur du monde où j'ai grandi, on me rappelait quand même que ma mère était française. Nous sortons d'un pays anciennement colonisé par la France. Donc quand, au départ, je vais dans une école, ce qu'on appelle une école catholique en Algérie, jusqu'au moment où on demande aux religieuses de se retirer d'Algérie. Donc on se retrouve dans des écoles laïques. Et là, je suis confrontée à la population algérienne qui, elle, me rappelle que ma mère n'est pas algérienne, que ma mère est française. Donc je découvre ça. Je découvre que ma mère, en fait, n'est pas comme les autres mamans. Elle est européenne, elle est française, elle est catholique. J'arrive en France.
C'est l'inverse.
C'est pas l'inverse. Là, non, je me retrouve avec un autre problème en France. Je me retrouve avec le problème d'être une femme dans un monde où c'est un handicap. C'est-à-dire, c'est plus l'extérieur qui devient un danger pour moi, c'est l'intérieur. Mon foyer, ma famille est devenue un danger pour moi. Mais l'extérieur, non. On m'a jamais rappelé que mon père était arabe ou algérien.
Quand vous dites le milieu familial devient un danger, précisez.
C'est-à-dire que j'ai été complètement rejetée. On a fait comme si on aurait bien voulu à ce moment-là que je n'existe pas.
Ça tient à votre famille ou c'est de...
Ça tient à la culture. Puisque c'est une culture méditerranéenne, à mon avis, quand même. Hein. Beaucoup plus que... C'est-à-dire qu'on a, à un moment donné, quand on se rend compte que la petite fille est en train de devenir une femme, on sait plus d'où la placer. Donc, on ne la place plus nulle part.
C'est vrai pour les garçons, ça ?
Non, pas du tout. Ça a été tout le contraire, par contre. Mes frères ont une position qui a été beaucoup plus privilégiée.
On passe d'un côté l'enfant roi...
Oui.
Et l'adolescent totalement...
Totalement brimé. Brimé.
Et comment vous le vivez, ça, en France ?
Moi, si vous voulez, je pense que je l'ai occulté pendant tout ce temps parce que c'était une manière aussi de survivre. Parce que si j'aurais trop fait attention à tout ça, je n'aurais pas survécu psychologiquement. Je serais devenue ou une toxicomane. Ou j'aurais fait comme les autres une anorexique, ou il aurait fallu quelque part que je m'auto mutile, parce que quand on vous fait mal et que vous savez un être humain quand on lui fait mal et qu'il sait pas pourquoi on lui fait mal et qu'il n'a rien fait pour qu'on lui fasse mal, il finit par s'automutiler. Alors au lieu de m'automutiler, en fait, j'ai tout simplement je me suis complètement caché la face. Préférer ne pas penser ce qui était en train de m'arriver pour essayer d'y penser plus tard quand j'avais la maturité suffisante pour pouvoir y penser et y réfléchir à ce qui m'était arrivé sans vraiment culpabiliser quiconque ou en souffrir.
Vous mettez le pied donc dans une autre culture. Vous vous sentez à la fois française et algérienne.
Bah, en fait, je me sens ni algérienne ni française. C'est pour ça que dès le départ, j'ai voulu venir en tant que moi.
Voilà,
le nom c'est pour de ça famille. Que dès le départ, cette histoire de nom de famille, cette histoire de culture, pour moi, être algérienne, c'est, je pense qu'avant tout, être algérien, c'est très récent. C'est déjà une nation récente. Nous sommes une nation récente. On n'a pas plus de 40 ans. Par rapport à un peuple comme la France qui est beaucoup plus ancien, ou l'Irak qui est encore un peuple encore plus ancien, nous, on est très jeunes, même dans notre façon de voir les choses, même dans notre recherche historique. Hein, on n'a rien, on n'a pas grand-chose, à part cette indépendance en 62. Et je pense que ça y fait beaucoup, sans qu'on s'en rende compte, ça y fait énormément... même pour nous, pour notre développement psychologique en tant qu'Algérien. Quand on se dit Algérien, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce qu'on est d'origine d'une ancienne colonie française, une ancienne colonie avec des Espagnols, des Italiens, des Juifs? Alors en fait, quand on me pose la question être français, c'est quoi? Est-ce que c'est une identité? Est-ce que c'est une culture? Est-ce que c'est juste un plat de cuisine? C'est le fin mot, je pense qu'au départ, quand on parle, il faut être soi. Après, on peut dire oui, c'est vrai que j'ai des influences.
Oui, mais la plupart des personnes vivent leurs origines comme c'est
très identité.
Absolument, voilà. Donc, quel jugement on peut porter là-dessus? Parce que les gens ont besoin de cette identité. Ils diront leur nom de famille, alors que vous ne l'avez pas dit.
Non, parce que ça n'a pas de... C'est pas le propos aujourd'hui. Le propos, il n'est pas là. Le propos, qu'est-ce qu'on est quand on est dans un pays, on grandit dans un autre, on est... Qu'est-ce qu'on est exactement, finalement, dans tout ça? On n'est que soi, avec, bien sûr, des influences. Et on choisit, en grandissant, en devenant des adultes, on choisit l'influence parce que c'est une richesse. Moi, j'adore la cuisine française, ok? Comme j'aime la cuisine orientale. Par contre, je suis beaucoup plus influencée dans mon éducation par le côté oriental, parce que j'aime bien le côté jardin secret que nous ont donné les orientaux, plus que le côté très impudique de l'Europe.
C'est-à-dire, préciser, par exemple, sur le thème de la sexualité.
On va parler de ça. Mais bon, quand je suis arrivée en France, j'avais 10 ans, donc j'arrive, je suis une petite fille qui va devenir une femme. Je grandis dans une école religieuse. Dans cette école religieuse, la directrice qui était une sœur, elle, par contre, m'a mis de côté. Ça a été pour elle, j'étais la seule arabe, donc elle a tout fait pour me brimer. Mais je ne l'ai pas senti ça comme parce que j'étais une arabe. J'ai plus l'impression que c'était elle qui avait un problème que moi. J'ai toujours l'impression que quand les gens ils vous infériorisent d'entrer comme ça, que c'est eux qui ont un problème, ce n'est pas vous. Donc j'aurais très bien pu parler de racisme en arrivant en France. Oui, en France aussi, j'ai vécu le racisme parce que la sœur qui s'occupait de l'établissement où j'étais, elle n'a jamais voulu que je mette les pieds à l'église, par exemple. Elle m'avait interdit l'accès de l'église.
Et pourtant, c'était une école religieuse.
Eh bien, elle m'avait interdit et j'étais la seule parce que j'étais la seule arabe. Pourquoi? Parce que j'étais une arabe.
Une chose qu'il faut quand même rappeler aux auditeurs, c'est que vous n'êtes pas élevée dans une culture religieuse.
Non, du tout. Ma mère est pratiquante. Pratiquante, elle va à l'église, ma mère. Elle est pratiquante, elle croit en la Sainte Vierge, Jésus-Christ. Ah oui, ma mère est pratiquante. Mon père était moins pratiquant que ma mère. Mon père était musulman, mais je pense que mon père avait cette grandeur de penser que de toute façon, Dieu voyait tout, donc ça ne servait à rien de lui cacher quoi que ce soit. Donc il vivait dans une totale liberté. Il ne nous a jamais imposé Dieu. À la limite, je pense que lui-même, il se mettait égal à Dieu, puisqu'il n'a déjà pas imposé Dieu. Il ne se cachait pas dans son autorité derrière Dieu, comme le font beaucoup de gens. C'est-à-dire, c'est par rapport à Dieu. Lui, quoi qu'il disait, c'était lui. Il n'impliquait pas Dieu.
Donc, il se mettait à l'égal de Dieu.
Oui. C'est-à-dire que c'est quoi qu'il nous disait. Moi, j'ai souvent entendu des conversations de la part de parents envers leurs enfants, en leur disant, oh, si tu fais ci ou tu fais ça, tu seras puni par Dieu. Lui, il ne nous l'a jamais mis comme ça, hein. Lui, c'était lui qui nous disait « t'as pas à faire ci ou t'as pas à faire ça ».
C'est une force d'entendre ça, d'avoir ça comme exemple.
Ben oui, parce que quelque part, je trouve que c'est quand même grand de la part d'un être humain de s'impliquer tout seul et de responsabiliser personne d'autre, quoi.
D'accord. Donc cette religion ne comprend rien du tout, en fait.
Ben oui, parce qu'elle est là à me mettre de côté, à me laisser devant la porte quand tout le monde est rentré à l'église. Je suis comme, et je me rappelle une fois, c'était la communion d'une camarade à moi. Et donc, ma mère, elle avait ramené des fleurs et tout, parce que je lui avais dit que c'était sa communion. Et par contre, ça, je lui en ai voulu à ma mère pour ça, parce que ma mère était suffisamment intelligente pour ne pas accepter cette... Et donc, ma mère arrive, j'arrive, et elle me laisse devant la porte de l'église. Elle me dit, non, toi, tu ne rentres pas. Mais ta mère, elle rentre, parce qu'elle savait que ma mère était catholique.
Mais elle n'a pas le droit.
Eh ben, je le sais, moi, je le sais aujourd'hui. Oui. Ça, c'est quelque chose qui m'est même pas... Mais à l'époque... Peut-être un autre enfant aurait été très... en aurait vraiment été, comment dire, toute sa vie mal. Mais moi, c'est des détails comme ça qui ont fait par la suite que je fais bien la différence entre ceux qui ont vraiment la foi et ceux qui l'utilisent, la foi. Parce que quand on a la foi, on ouvre la porte à tout le monde. Mais quand on ne l'a pas, on fait des discriminations et on...
Lorsque vous vivez ensuite en France, c'est une situation difficile ou c'est la même situation sociale qu'en Algérie ?
Non, pas du tout. Non, là, je grandis, je ne joue plus avec les poupées. Donc, je commence à regarder le monde avec beaucoup plus de maturité, pas celle que j'ai aujourd'hui, certes. Mais je commence à m'ouvrir au monde et je m'ouvre très difficilement parce que déjà, je suis enfermée. Déjà, si je pouvais disparaître, je disparaissais, quoi. C'était quasiment ça, hein, je l'avais compris. Mais malgré tout, je m'accrochais. Et en plus, j'ai eu cette opportunité de toujours fréquenter, dès le départ, des Français de souche. Donc, j'ai eu la chance par rapport aux autres jeunes de ma génération qui ont grandi dans les banlieues, qui ont grandi contre eux et qui en fait se sont dispatchés une information qui était déjà fausse dès le départ et qu'après ils en ont fait n'importe quoi. C'est que moi, dès que je suis arrivée en France, j'ai fréquenté des Français. Donc, je savais qui étaient les Français. Et je voyais bien que les Français avaient... une très grande ouverture d'esprit. C'est comme ça que j'ai appris aussi à avoir une ouverture d'esprit. Et qu'ils avaient un grand amour pour leurs enfants aussi, qu'ils avaient une liberté de parole avec leurs enfants qui était énorme par rapport à moi qui n'avais aucune liberté de parole. Mais j'ai vécu ça sans envie ni jalousie, mais comme une forme de pédagogie. C'est-à-dire ce que je n'avais pas chez moi, je le vivais chez les autres.
Ça. Vous allez vous reconfronter avec l'Algérie au cours d'un séjour à 18 ans en 1988 à Oran.
En fait, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, comme je vous ai dit au départ, je n'avais pas envie de rester ici. Pour moi, ce n'était pas mon pays. Je voulais retourner dans mon pays. Donc, je décide à 18 ans, donc à ma majorité, de retourner vivre à Oran, qui pour moi était très important. Pour moi, c'était naturel, un état naturel. Mon père et ma mère avaient décidé que je vienne en France. Moi, à 18 ans, j'ai décidé de retourner dans mon pays. Donc, j'arrive à Oran. Entre-temps, bon, comme on dit, des fois, le hasard, le destin ou les coïncidences ont fait que l'Algérie vivait de moments difficiles.
On rappelle qu'il y a tous les événements de 1988, on va en parler. Voilà. Donc, il se passe quelque chose de très important, une révolte, des morts, une grande répression, et c'est à la suite de ça que va naître, va commencer ce qu'on peut appeler une guerre civile en Algérie. Puisque...
Oui, si on peut appeler ça une guerre civile, oui, une forme de je dirais, de... Vous savez, quand on veut sortir d'un couloir, on casse la porte, hein, des fois. Hein. Donc c'est aussi une manière de passer à autre chose. L'Algérie avait besoin de passer à autre chose. Même si, disant qu'au lieu de rester toujours dans le même problème, on fabrique un autre problème, mais au moins on passe à un autre
problème.
C'est-à-dire
toujours le même problème.
C'est-à-dire que l'Algérie vivait le même problème depuis 62, à mon avis, et c'était crever un abcès. Donc ils ont crevé un abcès et ils sont passés à autre chose. Ça ne veut pas dire que ça s'est résolu, mais ils sont passés à autre chose. Mais c'est vrai qu'on a, comme je donnerai le même exemple, c'est sur l'existence d'un être humain. Un être humain, il naît, il a l'enfance, l'adolescence, le côté jeune femme ou jeune homme. Après, il y a le côté la quarantaine, vous voyez, tout ça, vous prenez la vie d'un être humain, vous prenez la vie d'une nation ou d'un pays, c'est pareil. Il faut passer par plusieurs étapes avant d'arriver vraiment à la... à ce qu'on veut, oui, si on en a vraiment envie, quoi. Et l'Algérie passe par là aussi, c'est un pays jeune, donc c'est un pays qui est obligé de passer par plusieurs étapes pour arriver à quelque chose d'équilibré.
Mais ça a été quand même une redécouverte brutale, parce oui. que ça se fait dans le cas d'événements violents.
Et oui, la violence, toujours. L'être humain, il passe toujours par la violence, hein, pour exprimer ce qu'il veut, quoi.
Quel sentiment vous avez là? Vous restez combien de temps en Algérie?
Moi, je reste presque un an. Je reste presque
quand même un an,
tout
oui.
Tout le temps, oui. Tout le long de la... pendant qu'il y a eu les élections, pendant que... tout le long, j'étais là-bas. C'était très, très difficile parce que tout le monde avait peur, comme chaque fois, comme toutes les histoires. On a toujours peur. C'est normal, parce que l'homme a peur pour sa propre vie.
Il y avait des événements à Oran même?
Partout.
Des manifestations?
Ben, ça n'a pas duré longtemps, les manifestations. On est vite passé au silence, au ce qu'on appelle c'est un terme quand on demande aux gens de ne plus sortir chez eux.
Couvre-feu.
Voilà, un couvre-feu. Ça n'a pas duré longtemps, hein, les manifestations. Hein.
Mais ces manifestations étaient le fait de jeunes, en général.
Ah oui, 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 c'est que les jeunes. Oui, c'est les jeunes, parce que je pense que les gens, ils se sont dit, en sortant les jeunes, il n'y aura pas de répréhension de la part du gouvernement, quoi. Ils se sont dit, on va faire sortir les enfants. Les enfants...
Mais les enfants de quel âge?
Ben c'était des enfants de 15 à 25 ans.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'il y a une absence de responsabilité? Soyons clairs.
Mais bien sûr. Bien sûr. Mais les gens, ils ne prennent pas leur responsabilité face à leur choix.
C'est peut-être aussi qu'il y avait une révolte chez les jeunes.
Non, pourquoi? Il n'y a pas que les jeunes qui souffrent dans un monde. Tout le monde souffre. Les adultes, les vieux, les chiens, les chats. Pourquoi ça serait que les enfants? Les adultes, si, quand ils demandent à leurs enfants de manifester, c'est peut-être parce qu'eux savaient très bien que si c'était eux qui l'auraient fait, ils auraient une répréhension. Donc si on n'y va pas, il ne va pas y avoir de répréhension en sortant les enfants. Mais c'est pareil au même.
Il y a eu quand même beaucoup de morts, des gosses qui sont morts. Enfin, on n'arrive pas à avoir les chiffres, mais non, c'est plusieurs milliers de morts.
Vous savez, c'est pas que des chiffres, hein, c'est des histoires aussi.
Les gens vivent ça?
Comment les gens vivent ça,
oui,
à ce moment-là?
Quel regard
si vous voulez, je l'ai vécu en me disant que...
Oui,
ouais, non, mais je me suis dit que finalement, toutes les histoires se ressemblent déjà. Toutes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce pays a voulu l'indépendance pour qu'après un jour sa jeunesse se retourne, on reprend la même anecdote ailleurs et encore ailleurs et encore ailleurs. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Que ce soit, vous changez les noms, hein. Vous mettez à la place de l'Algérie, vous mettez un autre nom, c'est toujours pareil. Alors,
au bout d'un an, vous revenez en France. Votre vision a changé. Votre
oui, vision ma vision a changé.
Vous avez plus de 18 ans de toute façon et vous avez vécu quelque chose.
Oui.
Et là, qu'est-ce que c'est que vous avez appris, en fin de compte?
Ben, qu'on est responsable de sa vie, tout simplement. Qu'on n'a pas à acculer un gouvernement, un État, une idéologie, une religion. On est responsable de sa vie. Si un jour, on a envie d'être libre, on prend sa liberté tout seul. On ne responsabilise pas les autres. On ne dit pas que c'est la faute d'un État ou d'une politique. Si les gens, ils ont envie de quelque chose, il ne faut pas qu'ils le reprochent à quelqu'un de ne pas l'avoir. Il faut qu'ils l'aient eux-mêmes déjà. Si vous voulez la liberté, il faut déjà être libre. On ne va pas demander à un État de vous rendre libre si vous-même, vous n'êtes pas capable d'être libre. L'Algérie, c'est comme à ce moment-là, elle aurait voulu sa liberté. Mais est-ce qu'ils étaient capables de prendre la liberté?
Vous voulez dire à quel niveau? Individuellement?
Oui, c'est individuellement, oui, déjà par l'individu, bien sûr. Est-ce que les êtres humains sont tout à fait capables de demander aux autres ce qu'eux-mêmes vont faire? Vous voyez?
Pourquoi? Il y a eu un problème en Algérie pour vous qui fait que
il
les gens...
Il y a des problèmes de partout, il n'y a pas qu'en Algérie, des problèmes, il y en a de partout. Tout le monde a les mêmes problèmes.
Mais vous dites qu'il y avait un problème particulier sur cette notion de liberté, que vous avez... Oui. Parce que les gens sont réprimés en Algérie. Enfin, ils l'ont été auparavant.
Voilà, ils avaient déjà été avec la colonie. Ils avaient déjà été réprimés avec la colonie. Donc, ils savaient très bien comment ça se passe. Et alors, quand je vous raconte ça, moi, je vous dis, j'ai été réprimée en tant que fille. Dans ma famille, c'est pas politique, là. On parle de... C'est pas une histoire politique. J'arrive en Algérie, je vois que c'est tout un peuple. Donc, finalement, je me dis que c'est l'individu à prendre ses responsabilités. Je ne vais pas reprocher à mes parents d'avoir été comme ça avec moi. Si à un moment donné, la situation ne me convient pas, alors je la change par rapport à moi-même, pas par rapport aux autres. C'est pour ça que ce qui s'est passé en Algérie et la manière dont ça s'est passé, ça se passera toujours pareil à partir du moment que les gens eux-mêmes ne prennent pas en compte leur individualité et non par rapport à ce qu'ils attendent de l'autre.
Alors, on vérifie vos propos là, à propos de la sexualité. Et là, vous êtes dans une coupure ou pas ? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ?
Ça dépend de ce qu'on veut. Vous savez, moi, je pense qu'il y a des gens qui veulent juste manger et puis il y a des gens qui veulent juste rêver. Donc, c'est celui qui veut juste manger, ben, lui, d'en a mangé. Celui qui a envie de rêver, c'est ça, la liberté, c'est le rêve. Il y a des gens qui naissent pour avoir envie d'être libres. Alors, celui qui sort dans la rue pour crier que ça va pas, parce que si, parce que là, alors que juste simplement, il a juste besoin qu'on lui remplisse le frigo, ça n'a rien à voir avec celui qui sort parce qu'il a envie de rêver, qu'on lui laisse de l'espace. Hein. C'est pour ça que quand vous me dites par rapport aux autres, à l'immigration, c'est l'immigration, cette immigration, est-ce qu'elle est là parce qu'elle a envie de liberté ou est-ce qu'elle est là juste parce qu'elle a envie de manger ?
C'est la question que je vous pose. Oui.
Voilà. Donc, moi, si vous me posez la question à moi, moi, en France, je me sens libre. Je ne suis pas en France parce que j'ai besoin de manger. Je suis en France parce que je me sens libre. C'est un choix que j'ai fait. Je me sens libre quand je marche dans la rue. En tant que femme, je peux me permettre de mettre une mini-jupe. Oui, mais il y a d'autres pays aussi où je me sens très libre. Je me sens libre en Espagne. Même à 6 heures du matin, je me balade en mini-jupe, il ne m'arrivera rien. Mais il y a des pays où je ne me sentirai jamais libre. Même pas à 3 heures de l'après-midi. Mais pourquoi ? C'est parce que l'esprit des gens est dangereux, c'est pas le gouvernement qui est dangereux, mais c'est déjà à la base, sur le trottoir. Vous voyez ?
C'est-à-dire que vous expliquez le politique, c'est un reflet, ça ne fait que...
Mais bien sûr, on accuse toujours le politique, on dit toujours c'est la faute du politique, hein. Ou alors carrément, comme on dit, c'est Dieu, ou le politique, ou un des deux. Mais non, c'est l'individu qui est responsable de son action, c'est lui.
Alors, si je prends... fait l'avocat du diable. La colonisation a joué un rôle quand même sur les mentalités.
Mais bien sûr, comme toutes les formes de colonies, elle nous a apporté aussi une très grande richesse. Hein. Faut voir, l'Algérie, c'est un pays qui a été colonisé, mais la France a laissé des traces, mais elle n'a pas laissé que des traces sombres. Elle a laissé de belles traces, elle a laissé de très beaux parcs. Par exemple, c'est vrai, il faut dire la vérité, les Français sont très forts pour les jardins. Et ils nous ont laissé un parc qui aujourd'hui, ben, c'est bien dommage qu'on en profite pas de la même manière. Mais il ne faut pas regarder que le côté guerre, parce qu'avec ou sans la colonie, des guerres, il y en a. Alors il faut aussi regarder le bon côté des choses. Puis la France, elle a laissé des mélanges, comme moi. Quand on dit la liberté, quand on parle de liberté sexuelle, moi je suis une femme. Je suis une femme qui me suis épanouie sexuellement parce que quelque part on m'avait frustrée. Au départ, on m'a dit le sexe tabou, c'est pas bien, faut pas toucher. Donc en fait, j'ai développé une sexualité dans une très grande discrétion. Et j'ai tâtonné, marche par marche. Et j'arrive à l'âge où j'ai une sexualité très épanouie. Pourquoi ? Parce que j'ai fait les choses calmement, doucement, par rapport à d'autres. Il y a des jardins que l'on cultive avec patience.
Vous avez parlé de jardin secret tout à l'heure.
Voilà.
C'est-à-dire que la liberté, ça s'acquiert. C'est pas quelque chose qui s'est donné.
Non, on ne donne pas la liberté, non. C'est très dangereux. C'est comme si vous donniez une arme dans les mains d'un enfant. C'est pas s'en servir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on mélange tout. C'est pour ça que ça fait depuis la nuit des temps que l'homme parle de la liberté. Il ne sait même pas de quoi il parle. Mais ceux qui savent ce que c'est que la liberté, ils n'en parlent pas. Ils la vivent, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas besoin de le dire.
Oui,
on n'a pas besoin de crier dans la rue sa liberté, puisqu'on l'est libre. Celui qui commence à dire « oui, je veux la liberté », qui parle de rébellion, ou de... c'est parce qu'il n'est pas libre. Quand on est libre, on n'a pas besoin, c'est naturel. C'est pour ça que quand je vous dis ces jeunes qui sont sortis en Algérie ou dans n'importe quel pays du monde qui clament une liberté, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas oppressés, je ne dis pas le contraire.
Oui.
Mais quand du moment qu'individuellement on est libre, personne ne vous empêche de faire ce que vous voulez.
Mais alors, par rapport au thème, parce que c'est quand même un thème d'actualité, la religion aujourd'hui, hein, dans les rapports entre l'Europe et le monde musulman, le monde au sud de la Méditerranée.
C'est une facilité. C'est toujours facile de se cacher derrière quelque chose, derrière la politique ou derrière Dieu, c'est facile. C'est tellement facile de si vous voulez, c'est un peu comme un déguisement. Malheureusement, quand on arrive avec un certain habit, je dirais, l'autre qui est en face a déjà une idée sur vous. Et c'est vrai que la religion, c'est pareil que la politique. Quand vous arrivez avec des idées de gauche, par exemple, c'est que vous êtes social. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un d'humain. C'est toujours pareil. Quand quelqu'un, il n'a pas envie de montrer qu'il est vraiment, parce qu'il n'est pas beau, alors il se cache derrière quelque chose, que ce soit Dieu ou la politique.
Ou la morale, tout simplement.
Non, mais encore la morale, je trouve ça encore plus libre quand on se cache derrière la morale. Parce où elle est la morale? Que la politique, c'est facile.
Mais tout ce que vous dites là met complètement en défaut tous les discours que l'on entend aujourd'hui sur les rapports entre l'Europe, en gros, et le monde arabe. Parce que vous renvoyez chacun dos à dos en disant que chacun est responsable, que ce n'est pas seulement l'histoire qui explique. Vous avez fait une remarque une fois dans une émission en disant que l'histoire s'est fait, c'est à un certain niveau, mais les gens ne vivent pas l'histoire. Ils vivent la mémoire, ils vivent des événements. Donc, c'est un peu désespéré ce que vous dites là, ou non?
C'est rien de désespéré. C'est moi, je remets les choses à leur place, c'est tout.
Mais pourtant, il faut qu'on ait une action politique.
Non, les gouvernements... on revient toujours à ça. Voilà, il faut qu'il y ait une action politique. Mais il ne peut pas y avoir... Il y en a toujours eu des actions politiques, il y en aura toujours. Il y a toujours des gens qui vont se dire, on va mener une action. On va monter un groupe. Parce qu'on a peur d'être tout seul dans son idée. Il faut qu'on soit plusieurs. Alors qu'en fait, on peut tous être très différents et avoir des idées très différentes, mais arriver au même but. Et c'est ça le fait de vouloir absolument faire une action politique ou une action religieuse ou non. Non, il faut être libre, c'est tout.
C'est-à-dire que vous ne définissez pas la mémoire par rapport, que ce soit la France ou l'Algérie, vous la définissez par rapport à vous-même.
Mais bien sûr, parce que c'est moi que vous interviewez.
Exactement, je n'interviewe ni la France ni l'Algérie.
Voilà.
Je comprends bien.
Ça ne parle pas un pays. Le secret.
Mais actuellement, ces souvenirs, si j'ose dire, cette mémoire que vous avez, lorsque vous êtes avec... Il est difficile d'engager une discussion, d'avoir des relations avec d'autres personnes qui soient un peu, je dirais, qui soient d'accord avec vous.
Moi, je tiens à dire une chose, qu'à partir du moment qu'on a une idée, elle nous appartient, et on ne met personne devant en disant c'est la faute à machin, ou c'est la faute à l'autre, ou c'est parce que c'est un pays corrompu, ou parce que c'est une démocratie. De toute façon, quand je pars du principe que, comme au départ, la mémoire, c'est la richesse de l'humanité. Puisque votre sujet est sur la mémoire, c'est ça. Donc quand vous m'avez invité, vous m'avez parlé de mémoire. Et moi, je vous répondrai que si l'être humain n'avait pas cette mémoire, il n'aurait rien. Il n'aurait même pas d'histoire. Donc même la liberté, même l'Algérie, la France, c'est...
Donc on ne peut pas expliquer uniquement par des événements. Mais lorsqu'on veut aujourd'hui, par exemple, la repentance à propos de l'Algérie, la position de la France... ce qu'a été le colonialisme.
Il y a eu des erreurs, bien sûr, mais de tous les côtés, il y a toujours des erreurs. Puisqu'on est là comme en ignorant. Donc, comment voulez-vous que les gens, pendant la colonie en Algérie, comment les gens auraient pensé que ça allait aboutir à l'indépendance de l'Algérie? Mais c'était impensable.
Vous êtes en train de dire que, en fin de compte, ce n'est pas que la guerre d'Algérie continue. Cette relation continue de manière très intime, très forte. Entre la France et l'Algérie.
Parce que finalement, moi, ce que je reproche aux historiens, c'est que c'est de toujours lancer des mots, des phrases comme ça qui ont des répercussions quand même dans la tête de ces gens qui ne savent pas ce que c'est que la liberté. Parce que on continue par rapport à l'Algérie à culpabiliser la France. Alors qu'en fait, bon, l'histoire de l'Algérie aujourd'hui, elle est complètement indépendante de la France. Parce qu'on a quand même 40 ans. Elle n'a pas 10 ans. Plus. Elle n'est plus, ça y est, elle n'est plus une petite fille, un enfant. Elle n'a plus besoin du biberon. Ni...
Quand vous êtes allé en Algérie, vous avez vu comment ça se passait. À ce moment-là, il y avait aussi une absence de démocratie, par exemple.
Mais c'est normal Algérie. Qu'il y ait une absence de démocratie. Parce qu'il faut comprendre une chose. C'est que c'est un pays jeune. C'est un pays qui est très jeune. C'est un pays qui a besoin d'apprendre. D'accord ? Si demain, vous leur donnez à n'importe quel pays au monde, tout jeune, comme la France, elle a quand même 200 ans, 300 ans d'histoire.
Minimum.
Minimum. Hein, vous voyez, vous avez affaire à un vieillard. Mais vous attrapez un enfant, vous lui donnez la liberté. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que n'importe quoi. Que là, c'est normal qu'ils soient... Si vous voulez qu'ils comprennent comment... il faut que, comme mon histoire à moi, elle est faite de frustration, de souffrance, de douleur. Si vous faites... Ce n'est pas des enfants gâtés. Et c'est pour ça que peut-être qu'un jour, ce sera un pays qui aura... qui donnera des gens très intelligents, parce qu'ils auront quand même quelque part, ils se seront battus pour avoir cette liberté.
Ah, vous voulez dire par là qu'actuellement, en fin de compte, si on pourrait dire que ce que vous faites, vous noircissez le tableau, en réalité, c'est parce que les gens vont se battre.
Oui, pour comprendre. Pour comprendre, si vous voulez, la richesse qu'est la liberté. Vous voyez ? Sinon, si on l'acquit comme ça, si l'Algérie serait passée en 62 indépendante, démocratique et populaire et tout ce qu'on veut, peut-être qu'aujourd'hui, ça aurait été encore plus catastrophique.
Encore pire.
Encore pire, oui. Encore pire. Ce serait carrément à l'envers, quoi. C'est-à-dire qu'à la limite, peut-être que ce serait un pays complètement colonisé, mais de manière carrément comme ça, à la vue du monde. Là, ils apprennent aussi à prendre des gifles dans les pays extérieurs quand ils partent aux États-Unis. Il y a des Algériens qui partent.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que quand ils se voient arriver dans un pays, qu'il faut qu'ils galèrent pour vivre, ils apprennent en fait que leur pays, c'est quand même une richesse.
Donc, en fait, quand vous parlez de responsabilité, c'est tout simplement que les gens voient un peu petit peu où ils sont, ce qu'ils ont autour d'eux. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Mais c'est très difficile.
Non, c'est sûr que c'est difficile, parce que là, on parle quand même des êtres humains. C'est toujours très difficile, l'être humain. L'être humain, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait en 5000 ans d'histoire. On ne va pas régler en 40 ans ce que 5000 ans d'histoire n'a pas réussi à faire, quand même.
Et pourtant, l'histoire a ses urgences, quelquefois.
Non, elle n'a pas d'urgence. Je pense que l'urgence, c'est nous, parce que nous, on a un temps sur cette terre. Nous, quand on parle tous les deux, on a un temps. D'accord ? Mais franchement, avant, il y avait d'autres, et après, il y en aura d'autres. La Terre elle-même n'a pas d'urgence, elle a encore beaucoup de temps à tourner autour du Soleil, et on laissera tous quelque chose qui fera que l'histoire se répète souvent, et parce qu'elle se répète qu'elle ne ressemble qu'à l'homme.
Vous vous sentez libre de ces relations entre la France et l'Algérie ? Vous êtes non pas au-dessus, hein, vous n'avez pas cette prétention, mais à côté, libre.
Moi je pense que je suis représentatif d'une nation qui est jeune et qui a beaucoup de choses à apprendre, et surtout de nos pères. C'est-à-dire pas de... on peut pas, comme je vous dis, on ne peut pas réclamer quelque chose dont on n'est pas conscient, comme la liberté. Il faut bien savoir ce que l'on veut avant de demander quelque chose. C'est-à-dire quand vous rentrez dans un restaurant et que vous prenez un menu, il faut bien savoir ce que vous voulez avant d'appeler le serveur et de commencer. Vous n'allez pas lui faire perdre du temps avec son stylo et sa feuille et lui dire ah non et ça, non pas ci, pas ceci, pas cela. Il faut savoir exactement ce que l'on veut pour en prétendre l'acquis.
Mais vous vous sentez aussi bien française qu'algérienne, on est clair. Hein, tout à l'heure, au début, vous aviez parlé de ça.
Oui, moi, je suis de nationalité franco-algérienne. Ça, c'est un acquis, puisque je suis née en Algérie française.
Absolument.
Voilà, ouais. Je ne suis
pas
née...
Il faut toujours le rappeler,
62. Je ne suis pas née en Algérie et que je suis venue en France et j'ai demandé ma nationalité française. Je suis née en Algérie française et en même temps algérienne. Pour moi, c'est une très grande richesse, il n'y a aucun handicap. Pour moi, c'est très, très important, les deux en même temps. Mais pourtant, je ne m'identifie pas de culture française, je m'identifie de culture arabe, qui est encore plus ancienne que l'Algérie, puisque la culture arabe est très ancienne, alors que l'Algérie est une jeune nation. Vous voyez un peu toute cette, oui. tout ce brassage. Il faut bien comprendre qu'on ne se dit pas franco-algérien comme ça, banalement. On n'en voit pas les mots comme ça. Il faut bien comprendre l'impact derrière. Qu'est-ce que c'est vraiment être franco-algérien? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui de s'appeler Anissa ou de s'appeler Françoise ou de s'appeler Mohamed? Moi, je vois qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui, de plus en plus, appellent leurs enfants par des prénoms très anciens, comme Mohamed, Ahmed... on revient un peu à, en fait à vouloir si vous voulez, moi je vois beaucoup de gens qui essayent de vouloir remettre ça à la face du monde au lieu d'être complexé, on est c'est plus une force.
Ah, vous trouvez que c'est positif là?
C'est une, ah oui, complètement, oui, oui, du moment que c'est pas c'est, du moment que c'est pas utilisé dans l'ignorance, c'est ça, que parce que beaucoup de gens ils sont manipulés, ils sont manipulés, donc c'est en fait cette ignorance pour les rendre plus forts, enfin c'est ce qu'ils croient eux, ils vont directement dans un couloir qui va les amener direct dans un enfer, quoi, sans le savoir. Donc est-ce que quand on se dit franco-algérien, on se reconnaît des deux, ou tout simplement c'est pour profiter d'une situation et tout en ne comprenant pas l'autre?
Vous êtes retourné en Algérie depuis 88?
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Vous y allez souvent?
Très souvent, oui. Très, très souvent, oui. J'aime beaucoup mon pays. Oui, j'y suis très
attachée. Qu'est-ce que vous touchez au rang? Parce que c'est un
peu... Moi, ce que j'aime quand je vais là-bas, ce que j'aime, c'est en fait ce qui est très oriental. C'est pour ça que moi, j'aime bien les différences. J'aime pas le fait de dire on est tous pareils. C'est pas vrai. Hein. Il faut qu'il y ait des différences pour qu'il y ait une richesse. Et c'est parce qu'on est différents qu'on s'apprécie, qu'on découvre. Et ce que j'aime beaucoup, moi, dans le, quand j'arrive là-bas, c'est cette chaleur. Il y a une chaleur humaine.
On raconte que les pieds noirs retournent.
Oui,
on raconte,
pour ça.
On a des reportages qui sont passés, que chacun a pu voir, qui retournent vivre en Algérie au moment de leur retraite.
Ça le fait beaucoup maintenant, parce que bon, l'Algérie est un pays qui s'ouvre énormément à l'extérieur. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut rester positif. Il faut pas trop non plus donner l'impression tout le temps que tout est fermé, tout est arrêté, rien ne peut se faire. Les choses se font. Elles se font doucement et sûrement, avec un peuple qui a aussi besoin d'apprendre, parce qu'il est jeune. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de possibilités pour les pieds noirs. Et c'est ça que je trouve formidable, moi, ces gens qui ont quitté ce pays il y a quand même plus, presque 40 ans, puisque c'était en 62.
Un peu plus, oui.
Et que quand ils arrivent là-bas, on a l'impression qu'ils sont partis hier.
Absolument, c'est l'impression que ça
donne. Ça, c'est la mémoire. Qui est quelque chose d'extraordinaire quand la mémoire peut rétrécir, quand elle peut oublier tout ce qui s'est passé entre-temps. Elle arrive en oubliant.
Anissa, on a un petit projet, je crois, ensemble. Les auditeurs vont dire que je suis privilégié, puisque vous avez l'intention de retourner à Oran, et pas seul. Donc il faudrait peut-être un peu expliquer ça, ce qu'on va essayer de faire d'ici le mois d'avril, je crois.
En fait, j'ai rencontré une personne qui m'a beaucoup touchée, parce que en fait, son grand-père était le premier rabbin d'Oran. Et j'ai senti qu'elle avait très envie de revoir ce pays qu'elle considère être le sien. Et je trouve que c'est normal qu'un pays n'est pas que celui d'une personne qui s'en réclame de cette identité, quand vous me dites algérienne, franco-algérienne. C'est que finalement, on aime un pays parce qu'on y est né, c'est tout. Et le retour de cette famille dont je suis en train d'organiser ce voyage... de toute cette famille qui a quitté l'Algérie bien avant 62, puisqu'ils l'ont quitté en 58, qui est juif, Je trouve ça formidable d'aimer un pays juste parce qu'on y a grandi. Et donc, je vous invite à m'y accompagner pour vivre cette émotion, tout simplement.
Denise n'était jamais retournée en Algérie, n'est jamais
Non,
retournée en Algérie.
non.
Et là, on aurait l'occasion, alors ça rentre un peu, pour un peu à titre d'information, un peu dans l'esprit de ces émissions, qui sont un petit peu un travail en cours, dans le cadre d'un projet plus vaste, puisque nous allons interroger des personnes entre Marseille et Alger sur un bateau.
Oui.
Donc moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ça, ce seront les interviews, les discussions que nous aurons l'occasion d'avoir sur ce navire. Mais je vais aller, bien entendu, avec plaisir jusqu'à Oran. Jusqu'à la synagogue, je crois, d'Oran.
Mais parce qu'en fait, comme son grand-père était rabbin, donc il a prêché dans cette synagogue, qui aujourd'hui est une bibliothèque. C'est quand même magique de passer de Dieu à la littérature, parce que dans cette synagogue, on y a prêché et aujourd'hui, on peut y lire. Et je trouve ça, je trouve que c'est magnifique quand les êtres humains, tout simplement, aiment les choses les plus simples. Et quand on voit cette famille qui a envie de redescendre bien presque 45 ans après en Algérie, avec autant d'amour, c'est ce qui fait en fait la richesse de l'humanité, c'est l'amour. Et ce voyage, c'est un voyage qui est un hymne à l'amour. Et en même temps, que la mémoire est quelque chose de très, très important dans le conscient de l'être humain.
En fait, on s'accompagnerait en quelque
Ah oui,
sorte
avec
les
un
uns,
grand, oui.
voilà. Et donc, on pourrait donc avoir des témoignages sur place. Une chose, est-ce qu'il y a encore des Juifs à Oran actuellement?
Je pense. Bien avant la colonie française, c'était une communauté qui était très très importante en Algérie. Enfin, à l'époque déjà des Turcs.
Ben oui, beaucoup de personnes sont venues d'Espagne à la suite de la
Bien
reconquête,
avant
bien
l'Espagne,
avant.
bien avant l'Espagne. Ils arrivaient du Maroc. Comme Denise a fait une recherche sur sa famille qui m'a paru très très intéressante, elle avait découvert en fait qu'il y avait une partie de sa famille qui venait de Turquie, donc était arrivée avec les Ottomans.
Ah d'accord,
Oui.
oui. Donc ils ont dû aller vers la Grèce.
Voilà, qui sont arrivés avec l'invasion des Ottomans, qui a été
Et donc ils
l'une.
sont revenus ensuite en Algérie.
Voilà, donc il n'a rien à voir avec ceux qui ont échappé à l'Inquisition d'Espagne.
Denise doit parler l'espagnol.
Ça, je lui ai pas posé la question. Je ne sais pas.
Parce qu'avant c'était quand même
Mais la
une...
majorité, il y a beaucoup de Juifs qui ne parlaient pas espagnol. Il y a beaucoup de Juifs qui parlaient que l'arabe. Que l'hébreu ne l'entendaient que dans la synagogue. Parce que sinon, en règle générale, ils ne parlaient que l'arabe.
Mais c'est le cas au Proche-Orient, bien
Voilà.
sûr, bien sûr.
C'est pour ça. Mais moi, je trouve ça très intéressant parce que ce sont quand même deux peuples qui aujourd'hui s'affrontent sur un sujet qui est la terre. Alors que tout simplement, la terre, elle est à tout le monde. Et on l'aime parce qu'on y est né. Et comme Denise et sa famille, moi, j'ai trouvé ça formidable de les faire revivre leur mémoire d'enfant. Puisqu'elle parlait des Madeleines dans l'interview que vous avez fait sur une autre émission,
Voilà,
où elle parlait de
je rappelle, sur Radio
l'odeur.
Galère, où précisément elle parlait de ce parfum de la Madeleine, bien
Et
sûr.
voilà, c'est là où on se rend compte de la richesse de la mémoire de l'être humain. Parce qu'en fait, c'est simple une madeleine, et l'odeur d'une madeleine, mais on se rend compte de l'importance que ça puisse avoir dans la vie d'un être humain.
Et à la suite de cette émission, vous avez retrouvé Denis, ça je ne savais pas. Vous avez eu l'occasion de la rencontrer à nouveau.
Ben, disons que au moment même après l'émission, on avait discuté et donc elle avait entendu que j'étais d'Oran. Et elle m'a dit qu'elle m'en a parlé de son envie d'aller à Oran. Et j'ai senti que cette dame de 63 ans, alors que moi j'en ai 37, que si je devais faire un geste comment dire, en reconnaissance de la partie de la famille de ma mère qui est pied-noir, parce que moi j'ai ma grand-mère, la mère de ma mère, qui a quitté l'Algérie en 62. Qui en est morte parce que elle ne connaissait qu'Oran. Elle était née à Oran, elle ne connaissait qu'Oran. Elle est morte de tristesse. Donc je me suis dit quelque part, c'était aussi un moyen de pouvoir faire plaisir à toute une génération qui a souffert.
À travers Denise, vous retrouvez un petit peu votre propre mémoire, bien
Voilà.
sûr.
Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté ce pays en 62 et qui ne connaissaient que ce pays. Et c'est quand on me dit tout le temps cette phrase franco-algérienne, et en fait, on n'est que ce que l'on est, c'est tout. Et quand on aime un endroit, quand on aime une terre, on aime son parfum, et ben, on a les historiens, les militaires n'ont pas le droit de décider à la place des autres.
Anissa, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
La traversée, c'était une émission de Lucien Bertolina et Gilbert Racina. Nous nous retrouverons le dimanche 19 novembre à 20h sur les 3-8 de la Grenouille avec Louise Picard, notre prochaine invitée. Thank you.